Depuis les attentats du 11 septembre et puis après l'assassinat de Samuel Paty, on parle beaucoup en France de laïcité. Mais la laïcité, c'est un concept qu'on connaît mal, qu'on ne comprend pas bien et dont tout le monde parle. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Patrick Veil, qui est un historien, qui est directeur de recherche au CNRS, qui est le fondateur de Bibliothèques sans frontières, qui a écrit pas mal de livres, en particulier de la laïcité en France, mais aussi Qu'est-ce qu'un Français? Et avec Patrick, on a un regard extrêmement historique sur les religions, sur la loi sur la laïcité, sur la séparation de l'État et de l'Église en 1905. Vous allez voir, c'est une conversation qui est extrêmement importante parce que je crois que ça permet de donner les bases d'une conversation saine sur cette question de la laïcité. Donc je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Patrick.
Bonjour Greg.
Tu vas bien?
Oui.
C'est une bonne nouvelle. Bon. Très affirmatif.
Ouais.
Est-ce que pour débuter, tu peux nous raconter l'histoire du chevalier de la barre? Ça va nous permettre de mieux comprendre, je pense, la position de l'Église à une période donnée.
Oui, et puis ça permet de comprendre l'attachement et peut-être même la tension qui existe sur la question de la liberté d'expression, de la liberté de critiquer la religion. Parce que l'opinion sur ce sujet des Français s'est faite après ce qu'on a appelé l'affaire du chevalier de la Barre. Alors, une nuit d'hiver, de tempête, dans une ville du nord de la France, Abbeville, un crucifixe se tombe sur un pont et les autorités de la ville et l'évêque appellent la population au témoignage pour dénoncer ceux qui auraient outragé le Christ et auraient fait tomber ce crucifix. Personne n'a rien vu. On trouve des témoins du fait que quelques jeunes, à la suite d'une soirée bien arrosée, avaient vomi et peut-être plus dans un cimetière devant une croix, et certains ne se seraient pas découverts devant une procession. On lance une réquisition contre ces quatre jeunes, trois s'enfuient, et il y en a un de 19 ans, le chevalier de la Barre, qui dit « moi j'ai rien fait » et qui se présente devant la justice. Il va être condamné à mort. Et avant de mourir, il est condamné à la torture. On lui brise un à un les os pour le faire avouer quelque chose qu'il ne peut pas avouer puisqu'il n'a rien fait. Et ensuite, on lui coupe la tête et avant de mettre son corps sur le bûcher, on lui met sur le corps, on le fait tenir sur le corps, avec une épée, le dictionnaire philosophique de Voltaire, et on organise le bûcher. Voltaire, quelques semaines plus tard, prend la plume pour dénoncer cet horrible assassinat ordonné par le roi qui avait refusé. L'amnistie, qui avait même été demandée par l'évêque. Et 40, au moment de la Révolution française, dès la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il est proclamé la liberté d'opinion, y compris religieuse. Et dès 1791, dans le Code pénal, le délit de blasphème est supprimé. Et en 1807, le grand juriste de la Révolution, qui s'appelle Merlin de Douai, qui écrit le dictionnaire de jurisprudence, au terme blasphème dit « La France entière tremble encore du martyre imposé au chevalier de la Barre. » En fait, la France a basculé après qu'ait été raconté dans tous les coins du pays cette horrible torture et décapitation imposée à ce jeune de 19 ans pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Et c'est de là que nous vient cet attachement à la liberté sans contrôle de l'État, sans contrôle du juge, de critiquer la religion. Ça vient de la même source que la laïcité, puisque ça vient d'une séparation avec le religieux. Mais à partir de la même source, la liberté d'opinion s'organise tout à fait différemment. Parce que c'est le droit à l'irrespect. Alors qu'on en verra tout à l'heure quand on parlera de la laïcité, c'est l'organisation du respect de toutes les options spirituelles. La liberté d'opinion, c'est justement l'inverse. La liberté de caricaturer, c'est la liberté d'être irrespectueux. Et ça, c'est presque consubstantiel, à cause de cette histoire, à la liberté des Français proclamée par les principes de la Révolution française.
Et ça nous fait naturellement penser à Charlie Hebdo, c'est-à-dire cette capacité qu'ils ont pris de critiquer...
Toutes les autorités. Toutes les autorités, y compris religieuses, mais aussi militaires, politiques, etc. Et dans les dernières années, il y a eu une limitation de cette liberté quand elle entraîne des paroles racistes, antisémites, ou s'attaque même aux croyants en tant que personnes. Donc, mais le principe même, il nous vient de là, c'est-à-dire la liberté de l'irrespect.
Pour rentrer dans la conversation, une des choses qui m'a choqué, finalement, c'est la place de l'Église et la réaction de l'Église à la loi de 1905, qui était la première loi, finalement, enfin, si je me trompe pas trop, de séparation de l'Église et de l'État. Est-ce que tu peux nous raconter cette réaction? Donc, d'abord, je pense que le chevet de la barre, ça nous montre bien à quel point il y avait une mainmise de la religion sur la France de manière générale. Et puis, en France, quand on critique ce qui peut se passer par ailleurs, du coup, on se rend compte qu'en France, on faisait aussi la même chose il y a quelques années quand même, mais malgré tout, c'est arrivé. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de voir comment l'Église a réagi quand on a voulu séparer l'état de la religion. D'ailleurs, pourquoi on a voulu le séparer et ensuite sa réaction.
Alors, ce qui est intéressant, c'est, et ça c'est un point commun avec l'histoire qu'on vient de raconter, c'était que l'Église était mêlée à l'État, puisque le délit de blasphème, c'était un délit pénal et c'était des juges non religieux qui infligeaient la peine et je dirais la requête en grâce, elle a été faite auprès du roi. C'était pas auprès de l'évêque. Donc, en fait, il y avait un mélange en permanence du religieux et du politique. Donc, déjà en matière d'opinion, il y avait eu cette séparation qui avait été faite au moment de la Révolution. Mais elle n'avait pas été faite du point de vue de l'organisation du culte. Napoléon avait même signé un accord international avec le Vatican, un concordat, qui faisait que les citoyens français, les contribuables, payaient les salaires des curés, des évêques, des archevêques, des cardinaux, l'entretien des églises, et puis on avait ensuite étendu cet accord de façon interne aux protestants de France, aux cultes protestants et aux cultes israélites. Bon. Donc c'est ce qu'on appelait les cultes reconnus. Les évêques étaient nommés par le Vatican sur proposition du gouvernement français. Donc il y avait un mélange de la religion et de la politique. Mais après la défaite de l'Empire, 1870-1871, et quand la France se cherche un régime, il y a une hésitation entre le retour à la monarchie et la réinstallation de la République, l'Église se mêle des affaires politiques des Français et appelle à soutenir la monarchie. Au moment de l'affaire Dreyfus, l'Église se mêle encore de cette affaire en soutenant la condamnation de Dreyfus. L'Église se mêle des élections en appelant depuis les chaires des Églises les fidèles à voter contre les candidats républicains. Donc il y a une demande, je dirais, de la masse, une masse des citoyens français de la séparation. Que l'Église s'occupe des affaires religieuses et qu'elle ne se mêle pas des affaires politiques. Alors déjà, il y a l'institution d'une école publique laïque qui va être séparée de l'école religieuse, mais la loi de séparation des cultes, elle va être préparée d'abord par des députés autour d'une commission dont le rapporteur est Aristide Briand, qui va travailler pendant 2 ans. C'est une commission qui fait un travail remarquable. Il y a une division dans la commission, il y a 17 voix pour la séparation, 16 contre, mais les 17 travaillent avec les 16 pour que, si la séparation advenait, les 16 qui sont plutôt catholiques voient leur foi préservée et libre dans le cadre du nouveau régime. Ce qui va provoquer la séparation, c'est un incident. C'est un incident diplomatique. Le président de la République française se rend à Rome, le président Loubet, à l'invitation du roi d'Italie. Le pape ne reconnaît pas l'autorité du roi d'Italie sur la ville de Rome, qui est un ancien territoire épiscopal, et a interdit à tous les chefs d'État et de gouvernement catholiques de se rendre à Rome. Le président français refuse cet ordre, répond à l'invitation, et quelques semaines après son retour, le pape envoie une lettre d'admonestation du président Loubet à tous les chefs d'État catholiques d'Europe en disant que, en tant que catholique, Loubet lui devait obéissance. Et à ce moment-là, cette lettre est fuitée par le prince de Monaco à Jaurès, qui est le patron du Parti Socialiste et du journal L'Humanité. Jaurès la publie dans L'Humanité, et là, la France bascule. Comment le pape peut vouloir ordonner au président de la République quoi faire, ne pas, dans ses voyages et dans ses activités politiques, le pays bascule en faveur de la séparation. Donc cette séparation est votée par la Chambre des députés et, fait exceptionnel, le Sénat, qui à l'époque a les mêmes pouvoirs que la Chambre des députés, c'est-à-dire s'il n'y a pas l'accord entre les deux chambres, une loi n'est pas adoptée, là, vote immédiatement le même texte conforme et la loi est promulguée le 9 décembre 1905.
Et du coup, la réaction de l'Église, c'est quoi ?
Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est la différence entre l'Église de France, qui avait un peu participé à la rédaction, qui était d'accord, en fait, avec, les conditions que la droite catholique avait voté un article, l'article 4 de la loi, qui lui donnait la garantie qu'elle pouvait continuer à s'organiser de la façon dont l'Église est organisée au niveau mondial, c'est-à-dire avec l'autorité du pape, une organisation hiérarchique. Donc tout ça est garanti par la loi, mais le Vatican, le pape, un pape très conservateur, ordonne aux catholiques de France de rejeter la loi. Alors il y a d'abord des incidents de violence, comme on va supprimer la gestion publique des églises. Il faut faire les inventaires de ce qu'il y a dans les églises pour les transférer à des associations catholiques. Bon, il y a des incidents dans les inventaires, il y a deux morts, le gouvernement tombe, et à ce moment-là, il se passe quelque chose d'extraordinaire, qui n'a jamais été vraiment assez relevé, c'est qu'entre gouvernements, un tandem, Aristide Briand, le rapporteur de la loi, qui va être nommé ministre de l'Instruction publique et des cultes, et Georges Clemenceau, ministre de l'Intérieur, et quelques mois plus tard, président du Conseil, c'est-à-dire équivalent de Premier ministre, chef du gouvernement. Et Briand va rester pendant 5 ans ministre des cultes, il va après être garde des Sceaux et ministre des cultes, puis remplacer Clemenceau en 1909 pour devenir président du Conseil, ministre de l'Intérieur et ministre des cultes. Donc pendant 5 ans, le même homme qui a fait la loi au Parlement pendant 2 ans et demi va l'appliquer. Et il va l'appliquer dans un contexte de quasi-guerre civile. Parce qu'après la crise des inventaires, qui se termine parce que Clemenceau dit « Aucun chandelier ne vaut une vie humaine », donc s'il y a des risques de... s'il y a eu 2 morts, donc on va s'arrêter là, le pape ordonne aux curés, aux évêques, de ne pas créer les associations cultuelles qui existent aujourd'hui, qui permettent d'organiser le culte. Et qu'est-ce qui se passe ? Après le délai d'un an qui avait été prévu par la loi, les messes devenaient comme des réunions publiques, sans statut spécial. À l'époque, pour faire une réunion publique, il faut une déclaration préalable et une autorisation préalable. Les curés refusent de faire les démarches. Les amendes pleuvent par centaines dès qu'il y a une messe, parce qu'ils ne respectent pas la loi. Alors là, la question se pose, que faire ? Clemenceau et Briand hésitent. Certes, ils hésitent à entamer une procédure de déchéance de la nationalité contre les évêques de France, même à mettre dans la loi une procédure de déchéance. Bon. Et ils reçoivent le conseil de l'archevêché d'Albi, qui dit non, c'est pas la bonne stratégie, il faut Le pape est entouré de réactionnaires. Il cherche à faire des martyrs. Il ne faut pas leur donner l'occasion. Il faut le contourner. Et qu'est-ce que c'est que la stratégie du contournement? C'est de dire, on ne va pas emmerder la masse des croyants. Les catholiques vont toujours pouvoir aller à la messe sans plus payer d'amende, etc. Les curés occuper leurs églises. On va simplement s'attaquer à ce que la loi permet de faire, c'est-à-dire s'attaquer, je dirais, aux catholiques radicalisés, à ceux qui exercent des pressions, ce que la loi interdit. Et donc, il va y avoir une loi qui va dire que la liberté de réunion est complète, on supprime l'autorisation préalable et la déclaration préalable, les curés peuvent occuper les églises, et simplement, dans une troisième étape, comme le pape lance une offensive contre les enseignements à l'intérieur de l'école publique, contre les manuels d'histoire, disant il faut vous surveiller les élèves, ou disant aux parents catholiques, lettre ouverte à tous les parents catholiques dans toutes les églises de France. Et il y a des curés qui menacent des élèves, des enfants, de les priver de première communion s'ils étudient dans certains livres d'histoire. Les parents sont privés de confession, des sacrements, et là, les procédures judiciaires sont lancées, puisque c'est une pression pour empêcher l'exécution des lois, et ça c'est interdit par la loi de 1905.
Et aussi ils prennent en otage l'école, si je me souviens bien.
C'est ça.
Ils veulent pas que l'école soit laïque, en fait ils disent l'État n'a aucun pouvoir à...
Ils veulent contrôler les contenus des manuels scolaires.
C'est ça.
Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ces dispositions pénales qui ont entraîné la condamnation à des peines d'amende, qui ont fait scandale à l'époque, parce que le cardinal de Bordeaux a été condamné, et deux évêques. En 1910, le journal jésuite Études met à la une de son premier numéro de l'année, deux événements se sont produits d'importance dans l'année 1909, la béatification de Jeanne d'Arc et la condamnation de trois évêques, dont un cardinal. Et comme ils refusent de payer l'amende, on va confisquer leurs meubles au vu et au su de tous les citoyens de leur ville. Bon, et on les vend aux enchères. Bon. Donc, il y a une fermeté par rapport à la violation de la loi qu'on ne trouve pas dans la réaction des autorités françaises par rapport à des types de comportements qui ont pu se produire dans les dernières années. Ce que je veux dire donc par là, c'est un élément très important. La loi 1905 proclame la liberté de conscience qui est absolue. Et puis aussi, la libre manifestation de sa foi, dès lors que la loi le permet, sans pression. Si quelqu'un fait pression sur vous, soit pour vous contraindre à manifester une foi, soit pour vous en empêcher quand vous avez le droit de le faire, cette personne peut aller en prison. C'est prévu par la loi. Et donc ça, c'est des libertés, c'est une liberté protégée. Et il y a aussi une autre chose qui est protégée, c'est la séparation. Si vous troublez un culte, vous pouvez aller en prison. Mais si une autorité religieuse se met à appeler les fidèles à s'attaquer à d'autres citoyens français, ou à menacer des fonctionnaires publics, ces personnes peuvent aussi aller en prison. Mmh. Donc il y a une protection de la liberté de conscience et de la liberté d'exercice du culte et de la séparation qui est prévue par des dispositions pénales que mon livre fait ressortir, je dirais, de l'oubli, de l'amnésie, et que les autorités de la République avaient ignoré depuis 30 ans.
Parce qu'effectivement, il y a énormément de discussions sur la laïcité en France, en particulier depuis les attentats, mais c'était le cas aussi avant. Maintenant, avec Zemmour, on parle du grand remplacement, on voit aussi tout ce qui se passe avec Dieudonné et les Juifs. Et je crois que le discours, alors je ne sais pas si le terme est bon, parce que c'est sans doute un terme qui est aujourd'hui mal perçu, mais il est un peu hystérisé, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur des trucs extrêmement binaires. Est-ce qu'on peut se rappeler quand par exemple, quand Zemmour parle du grand remplacement, c'est quoi la situation aujourd'hui des croyances En France, c'est vrai que l'islam, c'est la deuxième religion de France, mais néanmoins, elle est loin derrière, il me semble, de la religion catholique. C'est-à-dire, même si les gens ne sont pas nécessairement croyants, ils sont dans une culture catholique.
D'abord, la laïcité n'est pas un régime qui a été fait pour un pays de non-croyants. Comme vous l'avez signalé, c'était implicite dans ce que vous avez décrit, quand la loi de 1905 est proclamée, la France est très croyante, est majoritairement catholique, et même les instituteurs, souvent laïcs, vont à la messe. Bon, donc la très grande majorité, donc la loi de séparation a été faite dans un pays. Donc quand on dit, ah oui, la laïcité ça marche pas, parce que, ben non, elle marche très bien, elle respecte. La laïcité permet à tous les croyants, de toutes les confessions, et je dirais même de toutes les spécificités, par exemple au sein de l'islam, vous avez les chiites, les sunnites, les ismaélites, les ahmadis, vous avez plein de... Et puis vous pouvez vous-même créer votre propre interprétation du Coran. Bon, et bien si vous avez envie de le faire, vous créez une association cultuelle, dans le cas de la loi de 1905, personne ne va vous emmerder. Ce qui n'est pas toujours le cas dans certains pays musulmans. On va pas vous autoriser à être chiite ou à être sunnite ou à être ceci ou à être cela. Dans le cas de la loi 1905, qui d'ailleurs s'appliquait à l'Algérie selon la volonté du législateur, il le voulait. Alors, il avait prévu une période de transition que le gouvernement a étendue jusqu'à l'indépendance, mais il y a eu un débat. Est-ce que la loi peut s'appliquer à l'Algérie, ce qui veut dire aux musulmans? Et le Parlement a dit oui. Donc c'était pas une loi qui était faite, pas du tout. Elle était pas du tout faite que pour les catholiques. Elle a été faite avec une portée universelle, pour tous les croyants. Mais qu'est-ce qu'elle a comme particularité? Comme elle supprime les cultes, j'allais dire officiels, les cultes reconnus, elle met à égalité tous les citoyens. Que vous soyez d'une croyance ou d'une autre, ou sans croyance, l'État est neutre. L'État ne reconnaît plus des cultes favorisés, mais aussi, et ça c'est la première fois dans l'histoire de France, en 1905, l'État rompt le lien spirituel qu'il attachait au catholicisme, en se déclarant, non pas anti-religieux, mais comme le dit Briand, a-religieux. Il ne se prononce pas sur la religion, ça n'est pas son domaine. Chacun fait ce qu'il veut, et l'État est neutre. Et ce qu'on peut dire aux enfants, par exemple, quand ils demandent qu'est-ce que c'est que la laïcité? La laïcité, vos parents vous ont transmis leurs idées sur Dieu, l'existence de Dieu, leur foi ou leur absence de foi. Ensuite, vous avez le droit de faire votre propre chemin. Et vous avez le droit de le faire sans pression. Si quelqu'un fait pression sur vous, cette personne peut aller en prison. Si vous vous faites pression sur quelqu'un, vous pouvez aller en prison. Mais et si votre professeur, même si elle est croyante ou s'il est croyant, ne porte pas de signe religieux, c'est pour ne pas faire pression sur vous. Parce que c'est une autorité, comme l'État. Et l'absence de signe chez les représentants de l'État, c'est un respect. Car la laïcité, c'est l'organisation, par la séparation, du respect de toutes les options spirituelles. C'est l'organisation du respect. Il faut accepter que l'autre, qui peut être un étranger, un inconnu, ou dans sa propre famille, pense exactement l'opposé de vous sur le sujet de Dieu. Eh bien, cette personne a sa place, sa pleine place, dans la laïcité française.
Et pourtant, il y a quelque chose qui revient dans le débat, je pense, parce que, comme tu le décris dans le livre, c'est de la religion qui se voit, c'est-à-dire il y a le voile, il y a eu cette histoire autour du burkini, il y a un certain nombre d'éléments, on va dire, qui rendent la religion visible, et puis des politiques, on parlait des Zemmour tout à l'heure, qui profite de ça, on va dire, ou en tout cas essaye de jouer sur des peurs. Je ne sais pas ce qu'il essaye de faire, Zemmour. Je serais très curieux d'avoir ton avis là-dessus. Mais il me semble, c'est ce que j'ai vu dans ton livre, qu'il y a de culture catholique en France, on est quasiment 50%, entre 48 et 57%. La culture de l'islam, c'est moins de 7%, c'est ça de mémoire ou...
Oui, mais disons que moi, dans mon enfance, je suis plus âgé que toi, je voyais beaucoup plus dans la rue des curés en soutane et des bonnes sœurs en habits de bonnes sœurs. Donc, comme il y a une baisse, donc l'habit religieux un peu disparu des rues. Mais la question, justement, a été très mal posée quand a surgi je dirais, des musulmans ou des musulmanes marquant extérieurement leur foi. Bon. Dans la discussion de la loi de 1905, au moment de cette période-là, certains, je dirais, militants athées ou anti-religieux avaient demandé l'interdiction du port de la soutane ou des habits religieux dans la rue. Ça a été rejeté. Le port des habits religieux dans la rue est légal. Bon. Ce qui est illégal, et je le répète parce que c'est très important, et ça n'a pas du tout été expliqué comme ça, ce qui est illégal, ce sont les pressions. Et les pressions, elles peuvent aussi avoir lieu au domicile. Le code pénal ne s'arrête pas à la porte de la maison. Bon. Il ne s'arrête pas à la porte même du lieu de culte. Le code pénal s'applique partout. La loi de 1905, en organisant la séparation des églises et de l'État, organise des espaces différents. Parce qu'il y a l'espace de l'État qui est neutre, il y a l'espace du lieu de culte où, en application de la loi, on respecte la coutume du culte. Un homme se découvre en entrant dans une église, se couvre en entrant dans une synagogue, enlève ses chaussures en entrant dans une mosquée. Bon, ça, c'est la règle du lieu de culte. Après, tu as l'espace de ton domicile. Si tu veux que les gens entrent chez toi...
Enlève leurs chaussures
ou fasse ce que tu fais ce que tu veux. Et alors il y a tout le reste où là tu vas avoir des gens de toutes options qu'il faut faire vivre ensemble et où tu vas avoir des espaces un peu différents. Et donc l'entreprise peut être plus régulée que la plage par exemple. Bon. Donc voilà, il y a comme ça des règles. Bon. Et au lieu d'expliquer ça, ça peut vous choquer. Certains vêtements. Mais dans ces cas-là, vous avez le droit de parler, vous avez le droit de débattre. Mais vous n'avez pas le droit, si c'est légal et s'il n'y a pas de pression, eh ben il y a la liberté dans ces espaces. Voilà.
Et d'ailleurs, l'interdiction.
Ça n'a pas été expliqué comme ça.
Non. Et d'ailleurs, l'interdiction du burkini a été rejetée.
A été annulée par le Conseil d'État parce que. Le burkini sur une plage, on peut aller sur une plage burkini
ou en t-shirt
topless.
Ce qu'on veut en fait.
Voilà. Bon et de même, voilà, c'est tout.
C'est hyper clair. Enfin, c'est important de reclarifier ce que c'est parce que effectivement, ça explique aussi pourquoi on condamne pas. Qu'on condamne pas. Des magazines qui peuvent se moquer de la religion, mais qu'on condamne...
C'est un autre truc, ça. Ça, c'est la liberté d'expression. C'est pas la laïcité. La non-condamnation de Charlie Hebdo par les tribunaux, c'est parce que c'est la liberté d'expression. Donc, c'est le droit à l'irrespect. Maintenant, à s'attaquer à des musulmans en tant que personne, ça, c'est condamnable. Et d'ailleurs, les tribunaux le condamnent.
Et c'est ce qui se passe avec Dieudonné,
Brigitte Bardot a été condamnée 5 ou 6 fois, et Zemmour a été condamné 2 fois. Bon. Et de même que Dieudonné l'a été pour ses attaques contre les Juifs. Donc, il faut. C'est différent d'attaquer les représentations divines, qui est autorisée, que d'attaquer les personnes qui ne l'est pas.
Très clair. C'est important de faire ce détail parce qu'effectivement, sinon, on ne comprend pas très bien.
Ce n'est pas le régime de la laïcité. Le régime de la laïcité, c'est le régime qui s'intéresse à l'organisation des prières, des manifestations de ferveur à l'égard de son Dieu, voilà, ou d'expression de sa foi. C'est ça la laïcité. C'est pas pareil que la liberté d'expression.
Et alors du coup, quand on a des policiers qui veulent interdire le port du voile pour les femmes qui conduisent en disant que c'est dangereux, ça se situe où ?
Alors après, il va y avoir des problèmes de frontières. Voilà. Bon, ça, c'est dans tous les pays. J'enseigne aux États-Unis. Il y a des cas devant la cour. Bon, la bataille continue, je dirais. Bon, les religions... La loi de 1905 a finalement été acceptée par l'Église catholique après la Seconde Guerre mondiale. Bon, enfin, si elle avait pu échapper à la loi de 1905, elle aurait préféré garder le régime d'influence qu'elle avait avant. Donc, il y a toujours des batailles à la frontière. Bon. Donc, je vais vous prendre un exemple tout à fait différent. Bon. la question des émissions de radio et de télévision religieuses, les émissions religieuses. Bon. On aurait pu dire, c'est le service public, donc c'est l'argent des contribuables. Donc on n'a pas à financer, c'est la neutralité, l'État n'a pas à financer, l'argent des contribuables n'a pas à financer des émissions qui vont bénéficier à des cultes. Mais la loi de 1905, dont je viens de raconter qu'elle était prévue pour permettre aux gens de circuler entre différents espaces. Elle a prévu aussi que des gens ne peuvent pas circuler entre différents espaces. Quand ils sont en prison, quand ils sont dans un hôpital, quand ils sont à l'armée, quand ils sont dans un internat, les gens ne peuvent pas circuler, ils sont enfermés dans un lieu. Mmh. Eh bien, on doit leur permettre d'exercer à titre individuel, s'ils le désirent, leur foi. Mmh. Et c'est pour ça qu'on finance des aumôniers. Mmh. Bon, des aumôneries. Alors, on aurait pu dire, donc, imaginons, reprenons l'exemple des émissions de radio-télévision. Ben, on s'est dit, qui c'est qui écoute ces émissions? C'est des personnes âgées, qui ont du mal à se déplacer, des malades, des handicapés. Formellement, ils ont le droit de quitter leur appartement ou leur maison et aller sur, mais ils ont du mal. Donc, quelque part, on aurait pu appliquer le régime de, hop, on ne prévoit pas ces omissions, et bien on a préféré appliquer le régime des aumôneries. Mmh. C'est-à-dire, on va leur permettre de faire rentrer à titre individuel dans leur appartement, dans leur lieu de domicile, l'émission religieuse qu'ils veulent écouter. Donc, à chaque fois, il y a des possibilités. Prenons un autre exemple, récemment décidé par le Conseil d'État. Est-ce que, dans les cantines scolaires, on peut proposer des repas alternatifs qui vont permettre de se conformer à des proscriptions ou à des prescriptions religieuses? Bon. Le Conseil d'État a dit, on peut faire les deux. On peut ne rien faire. Là, voilà, il a dit, tu vois, il a dit, on peut soit ne pas proposer l'alternative, mais proposer une alternative pour permettre le respect des prescriptions ou des proscriptions religieuses est autorisé aussi, c'est pas contraire à la laïcité. Mmh. Voilà.
Mmh. Mais en même temps, c'est vrai que, et c'est ce que tu décris dans le livre, a priori, respecter, enfin, donner des repas alternatifs, ça permet de mettre moins de pression sur les familles. Moins de pression financière, tout simplement, moins de pression...
Voilà, moi personnellement, alors en plus, les repas alternatifs qui vont être proposés sont des repas qui se conforment aux proscriptions, mais qui permettent, par exemple, de satisfaire aussi les végétariens. Mmh. Donc, ça va permettre, en fait, d'offrir de la diversité à tout le monde. Mmh. Bon. Et donc, chacun va... Voilà, ce ne sont pas des repas religieux. Ce sont des repas qui permettent aux croyants d'être à l'aise dans l'offre de nourriture. Et moi, je pense que, effectivement, c'est la meilleure solution.
Mmh. Tu fais un parallèle avec les États-Unis.
Oui.
En quoi il y a un par... Parce qu'en fait, j'ai la sensation comme ça, sans connaître bien le sujet, que eux ont une religion qui est plus marquée. C'est-à-dire que t'as encore le président de la République, pas le président de la République, le président américain, qui fait référence à Dieu en permanence, ce qui n'est plus du tout le cas en France. Enfin, ça serait très
alors,
surprenant.
C'est passionnant, les États-Unis, parce que c'est le régime le plus proche du nôtre. Et c'est celui dont on croit qu'il en est le plus éloigné. Bon. Pourquoi c'est le plus proche du nôtre? Parce que chez eux, comme chez nous, il n'y a pas de religion officielle. Et il y a... Et alors, simplement, la marque de la séparation ne s'applique pas au même endroit. Chez nous, c'est la présentation extérieure. Donc, pas de prière officielle, pas de serment sur un texte religieux, pas de religion dans les bâtiments officiels, sur la tête ou les vêtements des fonctionnaires. Chez eux, c'est en matière d'argent. Pas de financement de la religion. Il n'y a pas eu un dollar qui va à une église, à une école religieuse, etc. Alors que chez nous, on donne plein d'argent aux écoles religieuses. Donc, c'est ça qui est intéressant. Il faut aller au-delà des apparences. Il y a la marque de la séparation ne s'applique pas au même endroit. Voilà.
D'accord.
Alors, il y a des points communs, par exemple. Dans les écoles publiques, il n'y a plus de prières à l'école, plus de présence de religion, parce qu'eux, ils disent, pour les questions des prières au niveau du Parlement, ça, ils disent, bon, les enfants, il ne faut pas y toucher. Parce que les enfants ont une conscience fragile, qui est en formation, et toute pression est inacceptable. En revanche, si dans un conseil municipal, avant l'ouverture d'un conseil municipal, il y a une prière, ceux qui ne sont pas contents, soit ils ne participent pas à la prière, Soit ils ferment leurs oreilles, ils font leur, ils regardent leur portable. Enfin, je veux dire, ils sont adultes.
Mmh. Ils vont sur Instagram.
Ils doivent accepter, en tant qu'adultes, de faire face à des choses qui leur déplaisent. Voilà. Mmh. Mmh. Donc, ils raisonnent comme ça. Alors, là où on diverge, c'est quand ce n'est pas prévu par le droit. Quand il y a un conflit qui devient politique. Alors, comme, comme le régime de séparation n'est pas né de la même façon, là, on va diverger. Je m'explique. Dans le triangle entre l'individu, le groupe religieux et l'État, qui organise le régime de laïcité, les États-Unis, historiquement, ont été constitués par des réfugiés de religion minoritaire persécutés par l'État anglican. Mmh. Et donc, quand il y a un conflit, quelque part, immédiatement, ils ont le réflexe de se dire que le groupe religieux protège l'individu contre une intrusion de l'État. Et chez nous, comme ça, cette séparation est venue d'une intrusion de l'Église catholique dans les affaires de l'État, de la France, des Français, on a tendance à dire que c'est une intrusion du groupe religieux et c'est l'État sur, sur l'individu, sur la liberté de l'individu, et c'est l'État qui est le protecteur. Voilà, voilà ce que l'histoire, le régime juridique est assez proche, mais son interprétation et les réflexes qu'on a quand il faut réagir ne sont pas les mêmes.
Une question que je me pose, c'est, puisque c'est relativement, enfin, c'est clair, en fait, c'est clair depuis plus d'un siècle, enfin, c'est clair, en tout cas, il y a eu Vichy aussi, on n'en a pas vraiment parlé, mais il y a eu ce petit épisode, entre guillemets, qui a fait bouger les lignes, mais comment c'est qu'on en parle autant, comment c'est qu'il y a de la récupération, pourquoi on voit cette montée de l'extrême droite en France.
On ne peut pas. Il y a plusieurs facteurs. Et je ne peux pas. Comment dire. La laïcité, parfois on lui demande trop. Mmh. On dit ça c'est la laïcité. Non. La laïcité, c'est l'organisation du régime des cultes, ouais, et de la croyance. C'est tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des liens avec d'autres sujets. Mais il ne faut pas tout mélanger. Mmh. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'après la crise avec l'Église catholique dont on a parlé tout à l'heure, il y a eu la guerre de 14, il y a eu l'union sacrée, on a réglé le conflit avec l'Église catholique, sauf en matière scolaire, ça a mis plus de temps, mais on a oublié tout cet épisode, et on a même oublié les dispositions pénales qui s'appliquaient à ce moment-là, qui ont été appliquées. Et comme en France, il y a deux juridictions, il y a la Cour de cassation qui organise une partie du droit, et le Conseil d'État qui organise le droit administratif. Le Conseil d'État a pris le contrôle, en quelque sorte, de la jurisprudence sur les questions de laïcité. Et on en a oublié toutes les dispositions pénales de la loi. Donc, il y avait une sorte d'oubli, d'ignorance. Et donc, la bataille s'est organisée sur les... Voilà, des nouvelles croyances arrivent sur le territoire de l'Hexagone. Les gens ne savaient plus comment ça avait marché au départ, ils avaient oublié. Et ils n'ont pas été regardés dans les bons papiers, les bons textes. Même le projet de loi, là, qui vient d'être voté. Bon, moi j'ai été auditionné par la commission des lois du Sénat. J'ai parlé de ces condamnations avec l'article 35 de la loi de 1905. Le lendemain, on interroge le ministre de l'Intérieur, puis le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Ils disent que cet article n'a jamais été appliqué. Et d'ailleurs, ils étaient prêts à le supprimer, puisque l'Assemblée nationale l'avait supprimé en première lecture. Je montre dans mon bouquin qu'il a été appliqué des centaines de fois. Et pas par n'importe qui. Clémenceau, Briand, Poincaré, Caillaud, les grands leaders de la Troisième République. Donc il y avait une ignorance qui a fait que, par exemple, prenons l'exemple de la décapitation de Samuel Paty, on découvre, après son assassinat, que l'imam de la mosquée de Pantin avait posté sur la page Facebook de la mosquée la vidéo qui a probablement contribué à son assassinat. Le gouvernement ferme la mosquée, ne poursuit pas l'imam. Alors que l'article 35 le permettait.
Et pourquoi ils ne le font pas alors du coup ?
Parce qu'ils ne connaissaient pas.
Hein.
Alors, on croit rêver quelque part. Ben, c'est comme ça. Parfois, on croit trop qu'on est dirigé par des gens compétents.
Je pense qu'il y a plein de gens qui se disent que ils disent l'inverse.
Et ben voilà, on est parfois, c'est ce que j'ai dit à la suite de l'audition de ces deux ministres, qu'on était dirigés par des ignorants.
En tout cas, qui n'avaient pas suffisamment de connaissances du sujet.
Ah oui, en tout cas, ils avaient des conseillers ignorants, ils étaient eux-mêmes ignorants, et voilà.
Hmm. Et donc ça, ça explique...
Ça explique beaucoup le pataquès dans lequel on a été dans les dernières années. Hmm. Et moi, j'essaie, avec mon livre, j'essayais de clarifier, pour essayer d'unifier, d'unir, parce que qui peut s'opposer à ce régime, franchement ? C'est un régime de liberté. Des libertés protégées. C'est pas les libertés bisounours. C'est une liberté, attention. C'est ce que dit l'un des juristes qui a aidé Briand. Il dit, si vous proclamez le droit de propriété, et puis que vous pourriez pas des dispositions pénales au cas où quelqu'un vient occuper votre maison, bah, votre droit de propriété proclamé, il sert à rien. Bah, c'est pareil pour la liberté de conscience ou la séparation. Si vous la proclamez et que vous la protégez pas, ça vaut rien. Eh bien non, les dispositions pénales qui sont prévues dans la loi, elles sont consubstantielles à la compréhension de la loi. Eh bien, elles avaient été oubliées.
Et si je sors de la laïcité, un petit peu, en fait, vraiment, cette question du racisme, j'ai la sensation, monte en France. Je ne sais pas si ça monte, d'ailleurs, mais...
Je ne sais pas répondre à cette question. Je n'ai pas retravaillé cette question récemment.
D'ailleurs, ce n'était pas une question.
Non,
ce n'était pas une question, c'était plus une affirmation de ma part. Je ne sais pas trop si ça augmente, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, quand on voit Marine Le Pen, Zemmour, etc., que ça se normalise, en tout cas.
Enfin, en tout cas, il y a une façon de poser une sorte de différenciation entre Français, de créer des catégories de Français, entre ceux qu'on appelle les immigrés, mais qui ne sont pas des immigrés, qui sont en fait des Français d'origine étrangère, et qu'on continue d'appeler d'immigrés, alors qu'ils sont nés en France, ils sont parfois nés en France, de parents déjà nés en France, sont des petits-enfants, ils ont la nationalité française, et on les appelle encore immigrés. Et bien ça, oui. C'est une façon de distinguer entre compatriotes qui est inacceptable.
Et ça, ça permet de diviser, tout simplement. Tu peux réexpliquer aussi ce que c'est qu'être français ? Je sais que c'est un sujet que...
Ben, j'ai écrit deux livres. J'ai écrit « Qu'est-ce qu'un français ?» C'est sur l'histoire du droit de la nationalité. Et « Être français », qui est un peu la question sur l'identité nationale. Bon. Alors... Elles sont liées, mais c'est pas tout. Disons clairement, on peut être français par le droit et ne pas se sentir français, mais on peut se sentir français sans l'être. Bon, c'est pas obligatoirement concomitant, je dirais. Mais en général, il y a un lien. Bon. Alors, je dirais que je crois que cette question de la désignation d'un certain nombre de nos compatriotes, selon le terme d'immigrés, alors qu'ils sont... Ça vient du traumatisme de la guerre d'Algérie. Bon, l'Algérie était la France. C'était pas juste un territoire de l'Empire, ça avait été incorporé avec des départements, avec un régime discriminatoire, parce que le régime statut juridique des musulmans d'Algérie n'était pas... celui de l'égalité des droits. C'était un régime de distinction et de droits inférieurs du point de vue du statut. Bon. À la suite de la guerre, la dépendance de l'Algérie, se retrouvent sur les territoires de la France plusieurs catégories de personnes qui ont été dans la guerre dans des camps opposés. Bon, les colons et leurs descendants, les juifs, les harkis, et les Algériens devenus pleinement avec une nationalité. Mais ils sont en France. Quel sens on donne à leur présence commune ? Aucun. On n'en parle pas de cette question. On a ouvert la porte, il faut quand même le reconnaître. C'est quelque chose, après tout, après la Seconde Guerre mondiale, quand on dit à De Gaulle, il y a une main-d'œuvre toute prête à venir en France, les Allemands, De Gaulle dit, les Français n'accepteront pas. C'est pas ce qu'il dit sur les Algériens. Donc c'est quand même, il faut quand même le remarquer. Bon. Mais il faut donner, les êtres humains ont besoin de comprendre ce qui se passe. Donc, on se retrouve avec ces gens, et puis il y a les soldats, j'ai oublié les soldats qui ont quand même aussi été marqués par leur expérience. Bon. Alors, en 78-80, M. Giscard d'Estaing va tenter une opération de retour forcé. Lui considère que les Algériens et leurs familles doivent repartir. Même si, alors, il va y avoir cette tentative a échoué parce que la gauche, les églises se mobilisent, mais aussi les gaullistes, les chrétiens démocrates s'opposent à Giscard et empêchent cette opération. Peut-être qu'il y avait eu la colonisation, peut-être qu'il y avait eu des discriminations dans le passé, mais en 1970-80, on ne veut plus traiter les étrangers ou les venus d'Afrique différemment des autres. Et donc on leur applique, par exemple, le même régime du regroupement familial. On n'invente pas le regroupement familial en 1975. Il existait déjà avant. Simplement, on l'applique. Et alors là, va naître dans l'esprit même de certains intellectuels, je l'ai déjà noté dans un autre livre, Sens de la République, l'idée qu'il y a eu un complot pour imposer cette immigration venue d'Afrique, etc. Il n'y a rien eu du tout. Voilà, elle était là. Je dirais même, le gouvernement essayait de faire venir plutôt des Portugais que des Algériens. Mais ils ont traité, à la fin, quand les gens étaient là, on les traitait formellement, de façon égale. Mais il y a eu. Mais continuons. Quand il s'est avéré, après l'échec de Giscard, que ses enfants resteraient. Alors d'abord, avant, quand on essayait de les faire repartir, on avait créé des cours de langue d'origine dans les écoles, donc on les séparait. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé des cours d'enseignement du fait religieux. Qu'est-ce que ça venait foutre à l'école? Moi, j'étais dans une... Je sais pas toi, mais moi, j'avais pas eu de cours, j'ai jamais eu de cours d'enseignement du fait religieux, et je m'en porte très bien.
Bon. Oui, moi non plus.
Et donc, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire que quand des petits musulmans, entre guillemets, à qui on disait ce sont des petits musulmans, finalement, ah ben, il fallait leur faire un enseignement du fait religieux. Plutôt que d'enseigner la part de l'histoire de France qui faisait qu'ils étaient français, c'est-à-dire la colonisation et la décolonisation. C'est ça qu'il fallait enseigner. Donc on les a mis quelque part, pour des raisons complexes, enfin trop complexes pour que je les développe, dans une identification à la religion qui n'était pas celle de la citoyenneté. Or, pour en revenir à la laïcité, là il y a un lien. Dans la charte de la laïcité qui est affichée dans les écoles, il y a écrit, il y a 15 proclamations, il y en a une qui dit « la laïcité crée la citoyenneté ». Eh bien moi je dis non, c'est l'inverse. Parce que la laïcité, tu l'admettras, c'est aussi le droit de ne pas croire. Mais si tu as été élevé dans la religion, c'est-à-dire que la religion te donne un cadre, des lieux de rassemblement, de fraternité, de sociabilité, puis tu veux t'en éloigner parce que tu doutes, c'est plus ce que tu crois, etc. Il faut que tu aies ta place dans l'espace, dans l'autre. Le seul espace qui t'est offert en France, c'est la République. Donc il faut que, dans les enseignements qu'on t'a donnés, tu aies vu ta place. Un enfant qui vient d'Afrique du Nord ou d'Afrique du Sud de Sahara, sa religion, c'est éventuel, n'est qu'un des aspects multiples de son identité. Et son histoire, c'est celle de ses parents ou de ses grands-parents qui ont migré, qui ont traversé la mer, qui ont ensuite travaillé. C'est ça qu'il faut aussi raconter. Et c'est ça qui lui donne une place dans la République et qui va lui permettre de faire un choix que offre la laïcité formellement, c'est-à-dire le droit de croire ou de ne pas croire. Voilà.
Mais est-ce que ça, c'est pas lié au problème que on n'a pas voulu parler du... En fait, la colonisation...
Je suis d'accord.
On en a...
On a eu peur d'en parler parce que ça créait des tensions. Ben oui, mais il vaut mieux que des... Ça crée des tensions, mais c'est de l'histoire politique. Et c'est ça la mission de l'école, que de faire de l'histoire politique. Alors, ça crée des tensions, oui, c'est compliqué. Moi, j'ai un collègue, Frédéric Réjean, qui avait fait un petit livre. Parce qu'il faut que les enseignants, ils aient de quoi faire leur boulot. Moi, j'ai fait mon bouquin sur la laïcité pour les profs, pour qu'ils puissent, sur la liberté d'expression, sur la laïcité, qu'ils ne soient pas obligés de lire 25 bouquins pour pouvoir faire un cours d'une heure. Donc, pareil, alors, mon collègue Frédéric Réjean, il a fait un bouquin qui s'appelle « La France et ses esclaves ». Ben, celui qui veut faire un cours sur l'esclavage, il achète ce petit livre en poche et il a de quoi faire son cours. Bon, ben, sur la colonisation, c'est plus compliqué.
Il n'y a pas.
J'en connais pas, en tout cas. Hein, qui soit utile. Voilà, il faut arriver à faire ça. Parce que c'est ça qui manque. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses. Il y a des collègues qui travaillent formidablement. Il y a surtout une nouvelle génération qui est en train de produire des choses qui sort justement aussi de la guerre d'Algérie, qui ne doit pas nous monopoliser, qui a duré que 8 ans et qui ne concernait que l'Algérie. Mais je dirais, c'est ça le sujet. C'est tout à fait ce que tu relèves. C'est-à-dire, c'était difficile. Mais c'est ce qu'il fallait faire.
Parce qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, en fait, on a du mal avec les statistiques, on a du mal...
Alors ça, les statistiques, c'est autre chose. Moi, je suis pas favorable aux statistiques. Parce que, par exemple, aux États-Unis, je vais te donner un exemple. Il y a des statistiques, disons, ethno-raciales. Mais il n'y a pas de statistiques religieuses. C'est interdit. Donc, si tu veux savoir combien il y a de musulmans en Amérique, ben, tu ne sais pas. Tu fais comme chez nous, tu fais des sortes de... Tu fais des estimations. Bon. Mais les estimations, ça suffit pour lutter contre les discriminations. Tu n'as pas besoin de savoir. Si sur 20 Français d'origine africaine qui ont le même diplôme que 80 Français d'origine non africaine, il n'y en a que 10% qui trouvent un job alors que 90% des autres trouvent un job, tu n'as pas besoin d'avoir savoir si c'est 11 ou 9.
Ouais, c'est, de toute façon, la différence, elle est tellement majeure. Bah, que...
Voilà. On n'a pas... Franchement, c'est un prétexte. Dire il nous faut des statistiques ethniques pour lutter contre la discrimination, non mais ça va. On a tout ce qu'il faut pour savoir quand il y a des discriminations.
Et il y en a.
Et il y en a. Et donc, on doit lutter contre. La première discrimination pour moi, la première discrimination, c'est celle des contrôles d'identité. Le contrôle d'identité, c'est le code de l'indigénat maintenu sur le territoire national. Parce que c'est le contrôle d'identité qui vise des Français de couleur, c'est une peine que d'être arrêté plusieurs fois par jour en raison d'un préjugé qui est un préjugé de violation de la loi, mais qui est aussi fonction de la couleur de peau. Et donc ça, c'est une peine, parce que c'est devant tous ses camarades, devant ses collègues de bureau, c'est une peine. Et c'était ça, le code de l'indigénat. C'était une peine administrative qui s'ajoutait aux dispositions pénales. Eh bien moi, je considère que l'une des... Et je trouve qu'on n'est pas assez courageux dans ce domaine. L'une des choses qu'il faudrait faire, c'est la dépénalisation. Parce que l'une des raisons pour lesquelles on justifie les contrôles d'identité, c'est lutter contre la consommation de cannabis. Eh bien, on n'a qu'à le légaliser. Comme ça, on fera comme les autres pays. Parce que du coup, ça permettra de mettre les policiers à faire autre chose, à faire des choses beaucoup plus importantes pour la sécurité publique. Ça supprimera les contrôles d'identité, ça légalisera des nouveaux jobs, des nouvelles cultures, et ça n'a que de l'effet positif. L'Allemagne va le faire, donc c'est tout ça. La France l'actuel gouvernement pratique la politique la plus régressive dans ces domaines qu'aucun gouvernement n'ait jamais pratiqué.
Étonnamment, il me semble que Macron s'était positionné assez pour avant d'être élu.
Oui, mais Macron, le problème de Macron, c'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait qui est important.
Ouais, ça c'est clair. On a bien noté qu'il y a une petite différence.
Voilà.
Effectivement. Ce podcast s'appelle Vlan, donc j'aimerais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte.
Eh bien, je veux claquer la porte aux discriminations et je veux ouvrir la porte au vrai dialogue. C'est-à-dire, le fait de se retrouver, de se parler, ça veut dire de ne pas faire de la communication, c'est-à-dire d'avoir des paroles stratégiques que l'on fait, que l'on prononce pour avoir une portée politique ou une portée... Mais s'écouter. Vraiment se parler, s'écouter. Voilà. Créer des espaces de libre parole où on va s'écouter en tant que citoyen. Et il y a une chose que l'on pourrait faire, justement, si j'ai une minute pour développer. Je parlais tout à l'heure de tous ces Français qui ont une partie de leur cœur qui est restée en Algérie, avec des blessures, souvent. Eh bien, souvent, ils arrivent à l'âge, ils ont déjà passé l'âge de la retraite, ils approchent de la fin de leur existence. Et je trouve que dans chaque commune, les maires devraient, avec les bibliothèques, moi je suis très attaché aux bibliothèques, je ne sais pas si tu sais, j'ai créé Bibliothèques sans frontières.
Et j'ai reçu Augustin pour en parler.
Ouais. Donc... eh bien, les bibliothèques peuvent devenir des lieux d'archivage, de témoignages oraux ou filmés, de dialogues de gens qui ont habité la même ville en Algérie, ou au Tunisie, ou au Maroc, ou au Mali, et qui viennent raconter à leurs petits-enfants et aux petits-enfants de la commune leurs souvenirs. Leur souvenir, pas de guerre, leur souvenir de comment ils vivaient à l'époque. Et qu'ils racontent ça, qu'ils se parlent, qu'ils montrent à leurs petits-enfants qu'ils se parlent et qu'ils peuvent se parler. Voilà. Même si l'histoire les a divisés, la parole et l'échange et l'écoute peut à nouveau les rassembler dans la concitoyenneté qui les rassemble formellement, mais pas assez dans la réalité.
J'avais lu cette phrase qui te plaira sans doute, qui était « Écouter est un acte d'amour ». Mais c'est vraiment ça.
Oui, mais c'est aussi un acte de vie. Parce que sinon, si on s'enferme dans sa propre...
rhétorique.
Oui, et puis... Bon.
Ah bah écoutez l'autre.
On se dessèche. On se dessèche.
Voilà. C'est pas faux. Voilà. Merci beaucoup, Patrick.
Merci, Greg.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.